오사카 긴타나
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
On fait, on donnait de leur sueur, donnait de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est lundi 19 septembre et c'est le Canu Info du lundi sur Radio Canu. Il est 19h03 et c'est un Canu Info un peu spécial puisque c'est le premier Canu Info en mixité choisie sans mexis. C'est une petite émission pilote aujourd'hui, donc excusez-nous si c'est un peu...
Laborieux. Ce ne sera pas plus que les autres lundis, hein, je pense.
Mais en tout cas, on a pour projet de faire un Canu Info en mixité choisie sans mexis chaque deuxième lundi du mois. Voilà, c'est dit. Et pour aujourd'hui, on va parler à l'international de la Journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement. Puis d'une femme kurde qui a été tuée par la police des mœurs en Iran.
Au national, on parlera des travailleuses du médical et du social qui continuent la lutte.
Et au local, on fera un retour sur le procès Rokhanit et sur le procès d'Arthur. Et puis on aura bien sûr une interview sur la situation des mineurs isolés, puisque c'est bien d'actualité, il y aura un rassemblement à ce sujet cette semaine. Mais on commence tout de suite par la rubrique...
Et non, ça commence très très bien. Et non, parce que cette semaine, on a notre rubrique citation de la semaine pour laquelle nous n'avons pas de jingle. Mais on voulait quand même vous parler du tweet de Jean-Luc Mélenchon. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Caténins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Voilà, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui réagit aux accusations de violence conjugale contre Adrien Caténins, député France Insoumise et coordinateur du mouvement. Son épouse a en effet déposé une main courante pour des violences conjugales alors qu'ils sont en procédure de divorce. Alors si Adrien Caténins reconnaît en partie les fait errant son mandat à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui, préfère désigner une situation de violence conjugale sous les termes de divorce conflictuel. C'est la bonne vieille sémantique qui transforme encore trop souvent les féminicides en drames passionnels. Après Tahabouaf fait Éric Coquerel, Mélenchon montre bien de quel côté il est, et c'est celui du patriarcat. Allez Jean-Luc, il est temps de céder ta place, le vieux monde, c'est toi.
Et cette fois, on passe vraiment à la rubrique...
International.
Et on commence avec un petit sujet sur la journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement.
Donc, et avant, pour introduire cette journée, je voulais vous parler rapidement d'un article qui a attiré mon attention dans La Déferlante, la revue des révolutions féministes, qui est intitulé « Le féminisme occidental invisibilise les contributions des femmes non blanches ». C'est Rokhaya Diallo, qui est autrice, journaliste et réalisatrice, qui nous rappelle que, bon, en ce moment, on célèbre un peu partout l'anniversaire du mouvement MeToo. Donc, pour rappel, à l'automne 2017, l'actrice états-unienne Alyssa Milano incitait les victimes de violences sexuelles à se signaler dans un mouvement d'expression collective sous le hashtag MeToo. Comme nous le rappelle Rokhaya, en réalité, Alyssa Milano n'avait rien inventé. Une décennie auparavant, Tarana Burke, une travailleuse sociale noire originaire de Harlem, avait déjà réuni de nombreuses victimes de violences autour de ce cri contestataire « moi aussi ». Donc c'est une éducatrice activiste engagée contre les violences institutionnelles et elle a fondé en 2006 l'organisation Just Be Inc. pour accompagner les jeunes femmes noires dans leur accès à la santé. Et c'est lors d'un atelier qu'elle avait organisé en 2007 qu'elle a proposé à des lycéennes d'écrire MeToo lorsqu'elles avaient, en cas de besoin, demander de l'aide face à des violences sexistes. Et comme il y a eu beaucoup de réponses, elle a décidé de créer le mouvement hashtag MeToo sur MySpace, donc les ancêtres, voilà.
Les années 90.
Et donc c'est la naissance d'un mouvement d'éducation populaire dont l'objectif est de soutenir et amplifier la voix des victimes. Bref, on a invisibilisé cette femme. Et donc du coup, justement pour revenir, ben voilà, il y a d'autres invisibilisations et des journées aussi à rappeler. Donc le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Donc dans le monde entier. Et c'est une date qui est à l'origine par des luttes féministes latino-américaines qui se réunissaient depuis les années 80 dans des rassemblements qui réunissaient des féministes de tous les pays d'Amérique latine, des femmes indigènes de différents milieux sociaux et ethniques et tout. Et donc du coup, en 90, lors de ces gros rassemblements, un groupe de féministes brésiliennes a proposé de choisir le 28 septembre comme... Donc, la journée de lutte pour la dépénalisation et la légalisation de l'avortement en Amérique latine. Et donc, c'est aujourd'hui, donc cette date internationale. Et donc, cette date n'est pas anodine. Elle commémore une résolution qui s'appelait la liberté des ventres au Brésil, qui donnait enfin des droits aux femmes noires brésiliennes, donc au 19e siècle. Et cette date incarne donc un symbole de souveraineté des corps autour des mots d'ordre « liberté des ventres »,« légalisation de l'avortement »,« liberté des femmes pour décider ».
Et on passe toujours à l'international, à un sujet sur l'Iran.
Oui, mardi dernier, une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan d'Iran, Jina Amini, a été interpellée par la police des mœurs à Téhéran, où elle était en visite avec sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Le mauvais positionnement de son voile. Elle a été battue à mort par les policiers. Elle est décédée après 3 jours de coma. S'en est suivie dans de nombreuses villes d'Iran des manifestations. Des femmes ôtant et brûlant leur voile, et on voit aussi sur les réseaux sociaux des femmes qui se coupent les cheveux pour montrer leur solidarité avec Jina. De Paris à Téhéran, le patriarcat tue toujours.
On enchaîne avec une petite pause musicale et on va écouter Ni Una Menos de Chocolate Remix. C'est un petit reggaeton féministe qui nous vient d'Argentine.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí vecinos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h12, vous venez d'écouter Chocolaté Remix, Ni Una Menos. Et vous écoutez surtout le Canu Info en mixité choisie, sans Mexis, c'est notre première. On passe tout de suite à l'actu.
National.
Avec un sujet sur la lutte des travailleuses du médical et du social.
Et oui, la lutte des travailleuses du médical et du social continue, puisqu'il faut bien rappeler que dans ce domaine des métiers du care, il y a une très forte proportion de femmes, autour de 80%. Et ces métiers sont donc sous-payés, puisque finalement considérés comme relevant du naturel des femmes. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas des vrais salaires dans le social et dans le médical. En tout cas, il y a une mobilisation qui dure depuis un an et demi maintenant, qui a obtenu des premières avancées avec la proposition de l'extension de la prime Ségur au domaine du travail social. Mais malheureusement, cette prime Ségur, donc de 180 euros, déjà n'est qu'une prime et pas du salaire, et ne concerne que certains métiers, donc dans le domaine du social, exclusivement les diplômés du travail social, et pas tous les autres métiers qui permettent le bon fonctionnement des associations, des services publics et des administrations dans le domaine du social et du médical, de la secrétaire à la chargée, à la technicienne par exemple. Donc pour continuer la lutte pour l'augmentation des salaires et surtout, ou en tout cas en plus, autant aussi pour l'augmentation des moyens, puisque le sous-effectif et le manque de financement est un gros problème aussi dans ces domaines. Il y a une mobilisation nationale appelée par la CGT Santé Sociale le 22 septembre, donc ce jeudi 22 septembre 2022. Elle ne sera pas suivie dans toutes les villes, mais en tout cas à Paris, il y a un rendez-vous à 13h au parvis de l'Hôtel de Ville. Et l'organisation à l'échelle nationale continue, puisqu'il y a des rencontres nationales du travail social en lutte qui auront lieu les 8 et 9 octobre 2022 à Paris, qui réuniront donc des salariés, des étudiants, des collectifs et des syndicats. On fait quand même un petit lien avec le local, puisque dans le cadre de cette mobilisation, donc depuis près d'un an et demi, bon bah déjà il y a beaucoup de répression. Donc pour donner quelques exemples, des dernières infos qui circulent justement sur les réseaux nationaux, on a un assistant social au centre hospitalier de Mono à Flers qui est en procédure disciplinaire pour en gros s'être mobilisé. On a des élus CSE d'une fondation avec un pôle handicap qui sont assignés au TGI pour le simple fait d'avoir demandé une expertise. On a le patron d'une association, la CSEA, qui demande clairement par mail, sans aucun scrupule, à un autre patron de lui transmettre la liste d'anciens salariés grévistes en prévision des entretiens d'embauche qu'il va faire la semaine prochaine. Donc, malgré la répression, les travailleurs du médical et du social sont de plus en plus mobilisés. Et à Lyon notamment, il y a eu une grève la semaine dernière, mardi 13 septembre, des salariés de Forum Réfugiés, donc un des plus gros prestataires de l'État en matière d'accueil et d'hébergement des étrangers, notamment des demandeurs d'asile. Ils ont débrayé à plusieurs endroits du territoire en même temps, puisque maintenant ils ne sont plus qu'à Lyon, mais dans plein d'autres villes en France. Et c'est une grève inédite parce qu'ils s'étaient déjà mis en grève, ils et elles s'étaient déjà mis en grève. Contre les réformes du droit des étrangers et du droit d'asile, mais c'est la première fois qu'ils se mettent en grève concernant leurs conditions de travail, le manque de moyens et les bas salaires, qui en fait ont un impact direct sur la manière dont on accueille les bénéficiaires de ce genre de dispositif. Du coup, selon les organisateurs de la grève, il y avait quand même environ 200 grévistes sur un total de 500 salariés. Une partie s'était rassemblée à Villeurbanne, donc dans le Rhône, devant le siège de l'ONG. Et la lutte va continuer, donc pas ce 22 septembre à Lyon, mais on prévoit une grosse mobilisation de ces deux secteurs, donc du social et du médical, le 29 septembre, jeudi prochain, lors d'une grève interprofessionnelle appelée par plusieurs syndicats.
Et on fait tout de suite une nouvelle petite pause musicale. On écoute Primavera Nuestra de María Ruiz et Eva Sierra.
Siéntelo, llegan las revoluciones, de morados, de rabia y de flores, primavera nuestra. Esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta.
Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí,
sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.
Hoy no hay miedo ni paz, ni calma ni Dios que calla esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, a comernos el mañana.
Dicen que somos radicales señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí,
sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.
Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores, son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota, que aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo, porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la resaca. Somos radicales, porque así de radical es la desdicha del sistema que nos mata entre algodones, de los monstruos que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.
donc on est toujours Radio Canu dans l'émission en mixité choisie. Et nous venons d'écouter Primavera Nuestra avec Maria Ruiz featuring Eva Sierra. Donc on va passer maintenant au
local.
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 Et au local, on commence par un retour sur le procès du Roquenit.
Oui, on l'avait annoncé la semaine dernière. Hein, donc, c'est tenu mardi 13 le procès d'un militant antifasciste agressé par des FAF en avril 2018. Je rappelle rapidement les faits. Ça se passe donc le 11 avril 2018. Le lendemain, tiens, du murage du Bastion Social. Cinq amis se retrouvent donc au bar Le Roquenit dans le Vieux-Lon pour un concert ouvertement antiraciste. Ils repèrent rapidement dans le bar quelques nazillons du Bastion Social. Demande aux gérants et aux vigiles de les virer. Ceux-ci refusent, donc les cinq amis décident de s'en aller. Ils sortent du bar et se font alors attaquer par une vingtaine de FAF armés. Un des camarades parvient à se libérer, va chercher sa voiture pour récupérer ses potes. Il se fait alors de nouveau attaquer, mais sera finalement interpellé par la police qui arrivait donc sur les lieux entre-temps. On lui reprochera d'avoir utilisé sa voiture contre la foule, puis d'avoir lancé un bout de bois en direction du vigile, qui donc voulait pas virer les FAF et qui est visiblement plutôt copain avec eux. Vigile qui par ailleurs était condamné en 1985 dans une bien triste affaire de crime raciste, l'assassinat de Nordine Mejta. Mais bon, c'est quand même bien notre camarade après lequel les keufs en ont. Résultat, il est interpellé avec 8 de ses assaillants. Arrivé au poste, il se fait rouer de coups par les policiers. Bilan, un est cassé par les flics et une plainte de ces mêmes flics pour se couvrir. Sur les 8 FAF, seul un sera finalement poursuivi, hein, montrant bien la pirouette du parquet pour inverser les rôles. Le guet-apens est évident, mais à un inculpé contre un, on rééquilibre étrangement la balance. Après 4 ans d'enquête, dont on peine à voir les résultats, hein, puisqu'il n'y a eu presque aucun acte d'enquête depuis ces 4 ans, on a un procès où la victime est accusée et où la plupart des protagonistes ont disparu. Mardi donc se tenait un rassemblement pour soutenir le camarade injustement inculpé. Alors avant de parler du procès, je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme présente et qui avait été agressée par la même bande de nazillons il y a presque un an lors d'un rassemblement contre les violences sécuritaires.
Le 27 novembre de l'année dernière, on a participé à une marche, qui est une marche annuelle et qui est une marche qui se passe un peu partout dans le monde, donc en même temps à Londres, par exemple, pour dénoncer les violences policières, les crimes sécuritaires. Donc c'était que des familles de victimes. Et lorsqu'on est arrivé sur les marches du palais de justice, en fait, de l'autre côté, vous avez des mamans qui ont pris la parole. Vraiment, je ne vous cache pas que c'était déchirant. Et d'un coup, on a vu surgir un groupe de personnes. Certains étaient masqués. Excusez-moi, je suis encore... Ils étaient armés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient armés et ils nous ont attaqués. Alors heureusement, il y avait des petits jeunes qui étaient là, qui nous ont défendus. Et pour moi, ça a été vraiment choquant de voir que la police, en fait, a défendu ces personnes qui nous agressaient. Il n'y avait que des femmes. Vous avez une femme en particulier, celle, la maman de Mohamed, qui a été assassinée en garde à vue, qui est tombée dans les pommes tellement c'était violent et qu'on n'était pas venu pour ça, quoi. Et on s'est vraiment aperçu qu'en réalité, la police, elle les protégeait. Moi, j'ai écrit au procureur, enfin à la procureure pour expliquer la situation, parce qu'on s'est fait insulter de sale arabe, on s'est fait insulter de sale bougnoul, on s'est fait insulter, ils voyaient des Algériens de partout, vous voyez, ils ont un vrai problème psy. Eh bien, j'ai été la seule et l'unique, parce que tous ont peur, vous vous rendez compte? Ils ont peur de la justice, parce qu'ils ont peur derrière d'être sanctionnés. Ils ont peur de la police et de la répression. Ils ont peur des conséquences. Donc, j'ai écrit au procureur, j'attends qu'elle réagisse. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne vous cache pas que je ne suis pas dans sa tête. Mais voilà, moi, je ne trouve pas ça... J'espère que la justice, elle laissera pas ça... Sans conséquences, quoi. C'est pas normal.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie.
Ça donne donc un petit aperçu du type de psychopathes qui ont agressé nos camarades à la barre. Pourtant, n'en reste qu'un, Tristan Conchon, ancien trésorier du Bastion Social. Le seul que les vidéos montrent en pleine action. Alors, il ne dira pas grand-chose pendant le procès, hein, se cachant derrière une supposée légitime défense. À vrai dire, c'est surtout son avocat qui nous intéresse. Alors, son avocat, c'est Maître Pierre-Marie Bonneau, un avocat toulousain qui a assuré, bon, mal, hein, pour tout dire, sa défense. Pour la faire courte, il s'est surtout illustré par sa méconnaissance du dossier et s'est contenté d'une défense de ouin-ouin. On ne peut plus aller boire des coups tranquilles entre nazis. Monsieur Conchon, il a juste peur de disparaître, gna gna gna, de se faire grand remplacer. Il y en a marre, tout le monde il est méchant avec notre beau et grand projet de société. Alors je dis nôtre, hein, car Pierre-Marie Bonneau ne se cache pas de ses convictions nationalistes. Grand copain de Benedetti et de Gabriac, l'internet regorge de photos de lui hyper sympa. Alors une fois au milieu de gens faisant le salut nazi, une autre fois un hommage à Lespinasse, un grand pétainiste devant l'éternel. Il est passé par le GUD. France Info révèle d'ailleurs que d'après ses amis, il agrémenterait ses dîners avec des discours d'Hitler. Il a assuré la défense du négationniste Forisson, mais aussi de Soral. Bref, un chic type, quoi. Du côté de l'avocat de la police, hein, toujours les mêmes inepties. On aura eu le droit à la qualification de violence imaginaire pour désigner les violences policières. Une plaidoirie tout entière pensée pour l'obtention d'un 13e mois. Pour ceux-là qui se plaisent surtout à casser des nez, c'est toujours la même défense, hein, rien de nouveau. Ça fout quand même un peu la rage quand t'imagines ces dingues s'incharner sur un mec à terre au point de lui casser le nez à plusieurs et à grands coups de pied. Du côté du parquet, on demande 7 mois de sursis pour les deux, donc Conchon et le camarade antifasciste, avec une réquisition qui argumente systématiquement sur le fait qu'on traite également toutes les affaires. Ça nous rappelle l'affaire des 7 inculpés de l'année dernière, dont on a beaucoup parlé ici, où le parquet n'avait pas trop apprécié la tribune très largement partagée contre sa politique de deux poids, deux mesures. Alors du coup, pour démontrer qu'il n'y avait pas de politique de deux poids, deux mesures, la PROC requiert la même peine pour des chefs d'inculpation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça, c'est visiblement la politique de la cohérence du parquet maintenant. Alors on salue sa petite dédicace, hein, à la PROC, à l'actu policière, puisqu'à propos de légitime défense, elle dit, je cite, « On doit interroger la légitime défense. Ça marche dans les deux sens. Hein. » Ah oui, c'est vrai, pardon. Ces pauvres keufs qu'on accuse toujours d'en abuser, alors que pas du tout. Hein. La preuve en est, la semaine dernière, ils ont encore tué 2 personnes dans des situations de légitime défense. Bref, encore une mascarade qui rend fou. La vacuité des dossiers, les longueurs des enquêtes montrent rien d'autre que la volonté de cette justice de détruire les vies qui passent entre ses mains, de nous broyer pour qu'on ferme nos gueules. Mais le tribunal rempli pour soutenir le camarade face à un Tristan Conchon bien seul nous montre qu'on n'est pas tout seul face à cette machine infernale et que face à la répression, notre arme, c'est la solidarité.
Et on continue toujours au local avec un autre procès.
Ouais, c'est ma semaine procès. Donc après 2 ans et demi d'enquête, le procès des agresseurs d'Arthur va enfin se tenir à Lyon ce jeudi. Alors, qui sont les agresseurs d'Arthur ? Eh bien, des keufs, évidemment. Pour rappel, hein, Arthur avait été tabassé par la police en marge d'une manifestation à laquelle il ne participait pas. Résultat, mâchoire et 9 dents brisées, 20 000 euros de frais médicaux et la justice qui traîne depuis 3 ans.
Et comme ça nous a foutu bien la haine de parler de ces deux procès, on va écouter Ma haine de Kazé.
Plus cruelle que la pire de tes ruelles, elle est mon sang, mon tout, elle est mon rituel. Et j'ai couru pour elle, je mourrai pour elle, j'ai tout fait pour elle, pour moi c'est naturel. Elle m'assiste dans ces moments tristes où la France persiste à vouloir censurer mes pistes. Et son rôle consiste à classifier la liste de ceux que j'enverrai voir le médecin légiste. Et elle reste douce dans ses gestes. Moi je lui rends l'amour qu'elle me manifeste. Elle empeste le vieux rhum et puis proteste fermement contre toute forme d'alcooteste. Trimestre après trimestre, elle orchestre cette vie que le pouvoir séquestre. Donc à la Saint-Sylvestre, quand un flic se défenestre, elle rit et plus je l'aime, plus on me déteste. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Ma haine, aime, quand j'assène les coups même. Ceux qui nous craignent savent bien que la crème passe nous. Elle m'accompagne dans les moments les plus importants. Et puis sous couvert d'anonymat, les scrams ouverts, quel que soit le climat. c'est le coma pour le commun des MC commet une simple erreur et tu verras ce qu'elle fait. Ce décret prend effet à partir de maintenant. Alors je serai toi, je me méfierai à moi de vouloir partir les deux pieds devant idiotement. Elle me suit comme mon ombre. Rares les instants où elle s'absente, mes rivaux la ressentent, quel que soit leur nombre. Ma haine est dans mes veines, comme avec moi en cellule. Lorsque je purgeais ma peine, elle fait des émules, nul ne sert d'être incrédule. Tu connais ma famille, tu sais que les schlasses pullulent. T'as tiré le pire des numéros en page, coup de crapule. Quand elle est là, je côtoie l'exploit. MC, si je t'ai tardé ta gueule, dis que ce jour-là, elle est là avec moi. Oh, ma haine.
Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Citoyen, citoyenne, ma haine est anonyme. Sur ce sol, elle me console, elle est mon hymne, synonyme de revanche. Elle crache, elle n'a pas le manche, elle est juste de mèche quand ça tranche. Ma haine se place entre le marteau et l'enclume. Elle aime quand un poulet perd ses plumes. Ma haine est sur les murs, squatte les halls, contrôle mes faits et gestes. Elle est indigeste, insolente, excellente. Pour Marianne, sa cauchemar qui la hante. La honte, le doigt sur la détente. Un coup de lasse, un avion dans les Iowa. Un cri de guerre, façon fight the power. Ma haine a choisi son camp, a fait de moi un con qui fait trop de boucan. Oui, elle a du charme, elle est belle comme une arme. Elle est impolie, elle pollue, les Indes la saluent. Ma haine, ma haine, ma haine.
Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit, tu es noir, il voudrait que tu aies honte. Mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Cette bête de foire que l'on dompte. Cette bête de foire que l'on dompte.
A-L-F-A-L-F-H, cousin Vigels, Kazay, prodige. Tragédie d'une trajectoire, cousin. C'est toujours la délinquance notoire, cousin. 5-15 blancs, coq et sarcelle, cousin. Périm aiguisé au scalpel, cousin. 9 putain de droit et 9-5, cousin. A-L-F-A-L-F-H.
C'était Ma haine de la rappeuse Kazay. Vous êtes toujours sur le 102.2, c'est Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi 19 septembre qui se passe pour la première fois en mixité choisie sans Mexis. Et on va passer tout de suite à notre dossier.
Oui, on va parler de la situation des mineurs isolés non accompagnés de Lyon. Donc, au début de l'été, les squats du Chemineur et chez Gemma, qui accueillaient donc des MNA depuis plus d'un an, ont été évacués. Depuis le 5 juillet, une cinquantaine de jeunes sont donc sous détente dans le square Gustave-Auguste Ferrier. On accueille donc aujourd'hui Zoé du collectif de l'AMI. Salut.
Salut.
Et Chloé du collectif soutien migrants Croix-Rousse. Oui. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui s'est passé depuis les évacuations du début de l'été?
Oui. Alors du coup, il y a eu un squat qui s'appelait chez Gemma, il y a eu un incendie Donc on n'est pas du tout mis en cause dans cet incendie, mais les jeunes ont dû partir du squat parce qu'il n'était plus habitable. Ces jeunes ont été mis à l'abri dans un gymnase pendant 3 semaines. Et le gymnase a dû être réquisitionné par la mairie pour les activités d'été. Donc pour les jeunes qui étaient à Djemma, ils ont été ensuite logés dans des hôtels pour l'été. Jusqu'à leur prise en charge, jusqu'à ce qu'ils puissent passer dans des dispositifs de prise en charge, ouais. Et ensuite, il y a eu le squat, le chemineur, qui était sur le plateau, qui a eu une procédure d'expulsion fin juin. Et les jeunes du chemineur, qui n'ont pas pu être mis à l'abri dans un dispositif mis en place par la métropole parce qu'il n'y avait pas assez de place, donc il y en a une partie qui sont partis dans cette station, le dispositif de la métropole, et les jeunes qui étaient en plus, qui n'avaient pas de place, ont dû se retrouver à dormir sous des tentes dans le square Ferrié rue Hénon depuis début juillet du coup.
Et du coup, comment ça s'est passé un peu l'organisation de la solidarité? Parce que du coup, au moment où ils se sont retrouvés à la rue, vous avez dû faire face à, j'imagine, quand même des grosses difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, bah, tout l'été, ça a été très très compliqué pour les jeunes. Alors, il faut savoir que déjà au chemineur, il n'y avait pas assez de place. Les jeunes faisaient déjà face à des conditions de vie qui étaient assez déplorables. Il y en avait beaucoup qui vivaient déjà dehors, dans des tentes ou sous un barnum. Avec les intempéries, c'était déjà très compliqué. c'était les plus récemment arrivés qui vivaient dans ces barnums. Donc à la mise en place au déménagement, il y a eu donc la construction du campement au square Ferrié, l'installation du campement. Les jeunes se retrouvent, qui vivaient déjà dans des conditions très très compliquées, se retrouvent dans des conditions encore pires. La canicule, très 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 difficile pour les jeunes qui peuvent pas dormir toute la journée. Ils doivent rester au campement toute la journée, c'est vraiment invivable. ils ont 1h30 de cours par jour, mais le reste de la journée, c'est à eux de s'occuper. C'était très très difficile à vivre. On a eu pas mal les moustiques, enfin vraiment des conditions compliquées, les moustiques, les frelons, les branches qui risquent de tomber, les intempéries. Quand il s'est mis à pleuvoir, c'est devenu vraiment c'était déjà invivable, mais c'est vraiment devenu encore pire. Plus aucun espace de vie commun. On a installé des barnums, ils vivent, enfin c'est dans la gadoue, vraiment c'était très 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 difficile à vivre. Et là, depuis 3-4 jours, on fait face au froid, ce qui devient encore plus difficile. Les jeunes on n'a même pas le matériel pour faire face à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un campement, on n'a pas de quoi stocker. Les citoyens sont très très gentils, les voisins nous déposent plein de choses, donc c'est cool, on peut leur donner des vêtements de temps en temps, de la nourriture, mais la nourriture, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de quoi cuisiner, on n'a pas de quoi stocker, on n'a pas de quoi mettre au frais, donc c'est très limité sur ce qu'on peut leur offrir comme nourriture. Il ne faudrait pas non plus qu'ils attrapent des intoxications alimentaires par des dons qui sont faits et que le lendemain c'est périmé, que ça a pris chaud, que ça a pris froid, c'est compliqué. Et pour les vêtements, on n'a pas de quoi stocker, pareil, difficile de gérer ça. Et les jeunes qui vivent dans des tentes, on ne peut pas mettre un placard dans une tente pour mettre des vêtements. Ils ont un petit sac dans lequel ils peuvent mettre quelques vêtements, mais ils ne peuvent pas stocker des vêtements d'hiver alors qu'il fait la canicule. Et là, on se retrouve, depuis 3 jours, il fait froid, et ça fait 3 jours qu'on n'a pas de vêtements d'hiver, et c'est devenu très compliqué à gérer, quoi.
Alors, ils sont mineurs, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi ils ne sont pas reconnus et où ils en sont dans leur démarche?
Oui, donc pour rappeler un peu dans quelle situation ils sont, eux, c'est donc des mineurs non accompagnés qui ont été refusés une première fois. En fait, quand ils arrivent sur Lyon, ils vont se présenter à l'association Forum Réfugiés, qui est dans les pentes, et là ils ont une évaluation, alors pas tout de suite, ils peuvent attendre assez longtemps là dans des hôtels pour avoir une date, un rendez-vous pour l'évaluation, et là ils font un entretien avec un travailleur social, et cet entretien il est souvent assez expéditif en fait, il peut durer autour d'1h30, mais parfois ça va plus vite. souvent il est pas, alors on leur propose de l'interprétariat par téléphone, donc il y a aussi beaucoup de problèmes de compréhension dans cet entretien là et au terme de cet entretien ils ont la réponse, enfin quelques jours après ils ont une lettre de la Méomi qui leur informe si oui ou pas ils ont été pris en charge. Et donc nous en fait là, ceux qui sont en campement, c'est ceux qui ont été refusés à la suite de cet entretien. Et pourquoi ils sont refusés? Ben parce que l'entretien, en fait, c'est une heure et demie pour décider si oui ou non ils sont mineurs. C'est une heure et demie où on va leur poser des questions, on peut être un peu suspicieux, on va chercher des indices de leur minorité. Mais eux, ben, ils viennent de traverser un continent, donc ils n'ont peut-être pas forcément tout leur esprit en place. Ils sont même harcelés un peu de questions à ce moment-là, donc ce n'est pas forcément évident, ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas forcément qui ils ont en face d'eux, etc. Donc il y a des problèmes de cohérence souvent qui sont soulevés, qui sont donnés comme raison de leur refus. Des fois dans les raisons de leur refus, c'est ben t'as pas l'air mineur, mais bon voilà c'est très subjectif, ça dépend d'eux. Donc voilà, tout ça en une heure et demie, leur vie bascule, ils se retrouvent à la rue. Ils avaient déjà eu une vie, un parcours un peu de malade, et là ils se retrouvent à la rue, et du coup c'est à ce moment-là que souvent ils sont orientés, ou ils ont entendu parler du campement, du fait que les mineurs refusaient d'aller là-bas, et après on va essayer de leur proposer, enfin il y a des bénévoles qui assurent du soutien matériel, et il y a des bénévoles qui assurent du soutien pour les aider à faire un recours auprès du juge des enfants, parce qu'ils ont le droit à ce recours-là. Ils ont le droit d'être sur le territoire français et de faire un recours pour dire bah non, moi je suis pas d'accord, en fait je suis vraiment mineure. Donc,
et dans le cas des recours, tu peux nous dire quel est le pourcentage?
Oui, et à terme de ce recours, donc entre le moment du refus devant, après l'évaluation, et la date d'audience devant le juge des enfants, il peut s'écouler 6 mois. C'est ces 6 mois-là où il y a un flou, un vide juridique en fait, où ils ne sont pas du tout pris en charge et où il n'y a que des bénévoles qui s'occupent d'eux. Et à terme, après le juge des enfants, c'est 80% des jeunes qui se retrouvent devant le juge des enfants qui vont finir par être reconnus mineurs. Donc 6 mois d'attente et 6 mois à la rue, 6 mois sans personne pour les aider si ce n'est des bénévoles. Pour finalement être pris en charge dans 80% des cas par l'aide sociale à l'enfance.
Et du coup, bah, c'est un problème qui ne se pose pas uniquement à Lyon, hein. Il y a quand même un contexte national. Je crois qu'il y a une mobilisation début octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, quoi, de cette mobilisation nationale?
Alors, autour de la question des mineurs non accompagnés, il y a des collectifs qui sont formés dans plusieurs villes, notamment dans les grandes villes, parce que c'est là que les mineurs se concentrent. Donc à Marseille, à Toulouse, à Paris, il y a des campements comme à Lyon. À Marseille, il y a un squat qui vient tout juste d'être expulsé ou qui est en menace d'expulsion et qui, voilà, ils ont déjà installé un campement en prévision et pour militer, pour mettre un peu, montrer que les jeunes sont là. Et dans ce contexte-là, du coup, les collectifs se réunissent pour mener une campagne nationale pour exiger ce qu'on appelle la présomption de minorité. C'est-à-dire que les jeunes qui se présentent comme mineurs, on doit estimer qu'ils sont mineurs jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de changer la loi pour expliciter ce terme de présomption de minorité. Parce que la France est signataire de plusieurs textes qui du coup, explicitent cette présomption. La Convention internationale des droits de l'enfant, par exemple. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a une mobilisation qui va avoir lieu le 5 octobre, un peu partout en France, pour soutenir cette campagne.
Ok, bon, on en reparlera probablement par ici. À Lyon, donc c'est une compétence du département, la question des mineurs. Donc à Lyon, c'est évidemment la métropole qui s'en occupe. Est-ce que vous avez pu obtenir des réponses de la métropole depuis début juillet? Ça fait plus de 2 mois et demi que la situation elle dure. Et quelles étaient ces réponses, si vous en avez eues?
Depuis début juillet, c'est un peu... disons qu'on a un peu la sensation que les institutions font la sourde oreille. C'est un petit peu compliqué. On a quelques retours de la part de la mairie. Donc il y a des négociations qui sont en cours avec la mairie de Lyon pour mettre les jeunes à l'abri. Mais on n'a pas de réponse concrète pour l'instant, donc c'est un petit peu compliqué. Sachant que c'est pas la compétence de la mairie, donc elle ne souhaite pas ouvrir des dispositifs pérennes, contrairement à ce que la métropole pourrait faire. De la part de la métropole, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne sont pas opposés à l'idée d'ouvrir des lieux. On sait qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà ouvert par le passé deux lieux, donc des stations, à la suite d'expulsions de squats. C'est une mise à l'abri avec un accompagnement socio-éducatif, avec de la nourriture, ils sont mis au chaud, voilà, donc ça c'est ce qu'on demande. Et donc à la suite un peu de la pression qui a été mise par les squats, ces lieux ont ouvert. Et on sait que la métropole est pas, et sait qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'actuellement il y a 92 places à l'échelle de Lyon, et il en faudrait probablement entre 150 et 200 pour héberger la totalité des mineurs non accompagnés en recours. Mais pour l'instant, on n'a pas de choses concrètes de la part de la métropole. Vraiment. Enfin, voilà. Donc, ouais, on va...
C'est la raison pour laquelle vous appelez un rassemblement donc ce mercredi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rassemblement? C'est où? À quelle heure? Et quelles sont vos revendications?
Ouais, du coup, mercredi qui arrive, on appelle un rassemblement à 13h, place de la Comédie, en présence des jeunes du campement, des soutiens, de toutes les personnes qui veulent venir nous aider, nous soutenir. On demande à être reçu dans les trois différents lieux de passage de la manifestation, donc la mairie, la métropole et la préfecture. Voilà, nos revendications, c'est que les jeunes soient mis à l'abri, qu'il y ait un accompagnement socio-éducatif, qu'ils soient pris en charge en fait jusqu'à leur recours, et puis après s'ils sont reconnus mineurs, bien sûr. Et on demande aussi une égalité dans le traitement des mineurs non accompagnés, parce que du coup il y en a une partie qui sont aux stations, qui sont pris en charge par la métropole. Ils ont beaucoup plus d'accès à beaucoup plus de droits que les jeunes qui sont au campement. Donc il y a déjà la nourriture, c'est l'accompagnement socio-éducatif. Il y a aussi la question des transports en commun. Les jeunes qui sont hébergés en station ont des abonnements TCL et ils peuvent prendre les transports en commun, ce qui n'est pas le cas des autres mineurs non accompagnés qui se retrouvent obligés de frauder en fait les transports tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix pour aller à l'école, pour aller manger, pour se rendre n'importe où en fait, et ça peut créer des situations compliquées. Il y en a beaucoup qui se font contrôler, des contrôles qui sont humiliants et difficiles à vivre pour les jeunes qui en plus n'ont pas du tout cette habitude de qui veulent pas frauder en fait. Du coup c'est très très malaisant, puis devoir rentrer dans le métro en suivant quelqu'un que tu ne connais pas, c'est très compliqué pour eux, donc ouais, une demande d'égalité des traitements de tous les mineurs non accompagnés,
y compris des filles d'ailleurs, parce qu'il y a des stations, il y a les dispositifs station 1 et 2 qui ont été ouverts par la métropole, mais c'est essentiellement pour des gars, et parce que dans les mineurs non accompagnés il y a aussi des filles qui sont aussi en recours, et il n'y a pas de station qui existe, il n'y a pas de place de station pour elles. Et donc ça c'est un truc qu'on aimerait aussi que, enfin, la métropole nous propose quelque chose pour les filles aussi, quoi.
Évidemment. Du coup là sur le campement, c'est quoi les besoins matériels en ce moment? Tu parlais du froid, ouais. Est-ce que vous avez une petite liste d'appels à dons qu'on pourrait transmettre sur les ondes?
Là du coup on a besoin de plein de choses, mais c'est vrai que l'urgence ça va être les vêtements d'hiver. Donc parce que les gars n'ont pas du tout stocké de vêtements d'hiver cet été et on se retrouve à avoir très froid très vite. Donc des manteaux, des pulls, des chaussettes, des gants, des bonnets, toutes ces choses-là. Sachant que du coup comme nous on peut pas du tout gérer des dons de vêtements à grande échelle parce qu'on n'a pas de quoi stocker, on demande si possible de donner tous ces vêtements directement au Secours Populaire qui est à Jean Massé. Et de dire que c'est donc pour la passe mineure, c'est le dispositif du Secours Populaire qui gère les mineurs non accompagnés. Okay. Et donc déposer ces dons au Secours Populaire, ça nous aidera à vêtir les garçons pour l'hiver, quoi. Et les filles aussi d'ailleurs, qui ont besoin de dons de vêtements aussi, parce que les filles, comme c'est une situation compliquée, on peut pas les laisser à la rue quand elles arrivent, quoi. Elles sont seules et remises à la rue par Forum Réfugiés. On fait soit appel à de l'hébergement citoyen, ou alors elles sont mises dans une résidence qui a quand même été donc un lieu qui est mis à disposition par la mairie. Mais c'est juste, c'est déjà ça, c'est un logement. Il n'y a pas par contre d'accompagnement socio-éducatif ou de nourriture ou de vêtements, voilà, c'est juste elles sont un logement et ensuite elles se débrouillent. Donc on a aussi besoin de vêtements pour elles. Voilà, donc tout ton de vêtements, ce serait quand même mieux de les déposer au Secours Populaire, ça nous arrange, mais okay. Voilà, on en a besoin.
Et en nourriture, tout ça?
Bah, nourriture, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas stocker et on ne peut pas cuire, donc ça va vraiment être que des choses... qui sont consommables telles quelles. Les garçons mangent souvent régulièrement des conserves de sardines, de thon, de la mayonnaise, du pain de mie, des tomates, voilà, toutes ces choses qui se font facilement. Voilà, après c'est pas équilibré comme alimentation, il faudrait quand même qu'on trouve des solutions un peu plus adéquates.
Et vous m'avez parlé d'un livre qui sortait.
Oui. Donc c'est un livre sur l'aventure du collège Maurice Sèvre qui s'appelle Un squat sur un plateau et qui est déjà disponible, je crois, en librairie, où vous pouvez le faire commander, puis ça le fera venir dans les librairies s'il n'y est pas.
Ok, très bien. On rappelle le rassemblement de mercredi, donc à 13h, place de la Comédie, pour demander des solutions pour les mineurs non accompagnés qui sont laissés à la rue, notamment par la métropole. Je vous remercie d'être venu. Se voit mercredi au rassemblement.
Cool, à mercredi.
Et de notre côté, on passe au traditionnel agenda.
Oui, et à l'agenda, on commence par demain, mardi 20 septembre à 18h30. Il y a un goûter de présentation du syndicat solidaire étudiant sur le campus de l'Université Lyon 2 des Quais. C'est en salle ATH 047. Donc c'est pour découvrir le syndicat qui se bat contre la précarité et la sélection à l'université et qui est en pleine campagne pour l'inscription et l'exonération de frais des sans-facs, y compris des étudiants étrangers, qui se voient appliquer des frais énormes depuis l'année dernière.
Et toujours mardi 20 septembre à 19h, il y a la causerie avec le réseau Salaria au bar des Clameurs sur le salaire à vie. Et l'adresse, c'est le 23 rue d'Aquesso à Lyon 7.
Et donc on en remet une petite couche, mercredi 21 septembre à 13h, il y a une manifestation, un rassemblement en soutien aux mineurs isolés à la rue en danger.
C'est une manif.
Place de la Comédie à Lyon 1er, et c'est donc bien une manifestation.
Et toujours le mercredi, il y a la permanence du DAL, association droit au logement, de 16h à 19h, au local jusqu'ici, et l'adresse c'est le 169 Grande Rue de la Guillotière, Lyon 7.
Ensuite, samedi 24 septembre, il y a les inscriptions au cours de français à l'illégalité de 11h à 16h. Donc l'illégalité, c'est dans le quartier Cusset de Villeurbanne, au 6 rue de l'égalité.
Et pour finir, toujours samedi 24 septembre, un hommage à la disparition de l'ancien président chilien Salvador Allende à 11h au Parc des Droits de l'Homme à Villeurbanne.
Et du coup, c'est la fin de cette émission.
Et de ce premier Canu Info en mixité choisi.
Et on se dit donc à la semaine prochaine pour le Canu Info classique et pour le Canu Info du lundi classique et au 10 octobre, donc le deuxième lundi du mois, pour un nouveau Canu Info en mixité choisi.
Et donc on vous dit à la semaine prochaine et ou dans un mois.
better be the waiting, baby, when I get back.